Place Info.
Bonjour Martin Vidic.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info Radio et Télé réunis comme chaque matin. Quatre morts jeudi dernier à la préfecture de police de Paris. Au vu de ce qu'on apprend jour après jour et quasiment heure par heure sur le parcours du tueur, est-ce qu'il faut désormais qualifier ce qui s'est passé d'attentat ?
Alors, en tout cas, on peut qualifier ça d'action terroriste. Attentat, c'est une notion un peu trop structurée pour ce genre d'individu. Il y a quelque chose d'un peu terrorisme pulsionnel quand même. Donc je dirais une action terroriste plutôt qu'un attentat, qui pour moi est un degré au-dessus.
Y compris s'il n'y a pas de revendication pour l'instant.
Oui, mais ça montrerait que l'État islamique est même plus capable de revendiquer. Vous savez, ils ont revendiqué des choses qu'ils n'ont pas fait. Le tireur de Las Vegas, des choses comme ça. Donc, je crois qu'ils sont complètement dans la panade et qu'ils n'ont même plus d'organes de presse pour faire ça. Ou alors ça va prendre un certain temps.
Ce qui frappe dans le parcours de ce tueur, Michael Harpon, évidemment, c'est que c'est un islamiste radicalisé, un musulman qui s'est radicalisé et qui était fonctionnaire de police, qui travaillait au sein de la préfecture de police. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a, vous, Marc Trévidic, surpris quand vous avez appris cette...
Comme tout le monde, c'est-à-dire les personnes dont la mission est de protéger les autres, les militaires, les policiers, imaginez un juge qui se radicaliserait, donc ces fonctions très régaliennes, ça fait plus peur qu'un chauffeur de bus, si vous voulez. Parce que on se demande comment c'est possible dans un système qui est fait justement pour protéger notamment du terrorisme, qu'on puisse avoir ce genre d'individu.
Et vous-même, c'est quelque chose, oui, qui vous semblait totalement inimaginable. Ou est-ce que dans votre parcours préalable, vous avez vu déjà des fonctionnaires de police, oui, ou des militaires, par exemple, suspectés de radicalisation ?
C'est pas du tout inimaginable. En fait, dans ma carrière, il y a eu beaucoup de cas, de militaires notamment. Il y a eu beaucoup de préoccupations. Dès après le 11 septembre 2001, il y a eu tout le problème des bagagistes de Roissy, des zones de sécurité. J'ai mis en examen un militaire qui préparait un attentat contre une mosquée, mais ça, c'était extrême droite, mais enfin, c'est le même problème. Et évidemment, l'armée, parce qu'il y a des armes de guerre, la façon de se procurer des armes est quand même assez importante. Donc, c'est un souci constant. Et il y a une grande différence entre le recrutement initial et des gens qui sont déjà fonctionnaires quand ils se radicalisent. Puisque c'est beaucoup plus facile d'empêcher quelqu'un d'entrer dans la fonction publique régalienne que après de le virer s'il se radicalise. Si
vous voulez dire qu'après on lève un peu la vigilance et que c'est plutôt un, oui, coup de tampon qu'une vraie étude de sa personnalité ou de voisinage.
Oui. L'armée revoit ça à chaque fois. Les contrats militaires, c'est 5 ans. Donc, au bout des 5 ans, s'il y a eu des petits soucis, on en profite pour pas renouveler le contrat. Oui. Mais c'est très difficile quand quelqu'un est déjà en poste et fonctionnaire avec le statut de la fonction publique de dire vous radicalisez, il y a quelques petits signes. Il y a problème du droit. Comment on fait pour se débarrasser de la personne en question ? C'est très compliqué.
On a donc appris ce week-end que le dossier administratif du tueur de la préfecture, Michael Harpon, était vide, alors qu'il s'était réjoui en 2015, quelques mois après les attentats de Charlie Hebdo, de ces attentats, en disant, je cite, « c'est bien fait ». La hiérarchie de Michael Harpon avait été prévenue oralement, mais aucun élément n'avait donc été inscrit dans son dossier. Écoutez ce que vient de déclarer le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Donc évidemment, à ce moment-là, il aurait dû y avoir un signalement formel fait, un signalement automatique, et je pense que la première faille de notre système, c'est qu'il n'y ait pas eu de signalement, et surtout que celui-ci ne soit pas automatique, je souhaite. Et ce sera aussi à examiner dans le cadre de la mission que le Premier ministre a confiée à nos services de renseignement sur ce sujet-là, je souhaite que toute alerte fasse l'objet d'un signalement automatique.
Comment est-il possible que ce ne soit pas encore le cas aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'un signalement ne fasse pas l'objet d'une inscription ?
Bah non, là effectivement, quelqu'un qui se réjouit d'un attentat alors qu'il est policier, au renseignement à la préfecture de police, c'est bizarre que ce soit pas remonté. Maintenant, il y a le facteur humain. Quand vous travaillez au quotidien avec un collègue depuis des années, c'est pas forcément évident d'aller le dénoncer quand il y a une petite démo comme ça, surtout si ça se renouvelle pas. Ça dépend du contexte dans lequel ça a été dit aussi.
On n'est pas n'importe où. Vous l'avez rappelé, on est dans le sein des saints du renseignement. Il n'y a pas une procédure automatique dans ces cas-là, comme l'annonce aujourd'hui Christophe Castaner. C'est laissé à la volonté de ses collègues, à leur appréciation et donc aux pressions qu'ils peuvent avoir au sein d'un même bureau.
Non, mais c'est sûr, oui. Non, mais il faut vraiment une note de service très claire, visante à rapporter tout fait qui peuvent paraître inquiétants. Bon, ça, ils le savent. Mais encore une fois, là, je connais pas le contexte dans lequel ça a été dit non plus. Il faut se méfier. Même ça paraît brut comme ça de décoffrage, complètement sidérant qu'un fonctionnaire de police puisse dire une chose pareille. Faudrait voir un tout petit peu le contexte.
Pourquoi est-ce que cet incident n'a pas été signalé ? Il y a plusieurs hypothèses qui sont évoquées, évidemment, et notamment le sénateur Christian Cambon, qui était l'invité de France Info ce matin, qui fait partie de la délégation de parlementaires qui va auditionner Christophe Castaner, d'ailleurs, dès demain. Eh bien, il émet cette explication.
On a peut-être voulu ne pas faire de vagues et faire en sorte que on passe sur cette affaire en disant bon, c'est quelqu'un de religion musulmane, si je le signale, peut-être que ça va poser des problèmes, je vais passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Vous voyez, il y a peut-être cet affaissement de la vigilance qui peut être assez dangereux et qui malheureusement a abouti à ce drame.
Est-ce que cette explication est effectivement imaginable et peut expliquer ce défaut de vigilance ?
Ça me paraît tout à fait possible, surtout qu'à l'époque, l'attentat de Charlie Hebdo, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme stupidité du genre, quelque part, ils ont quand même poussé le bouchon un peu loin. Donc il y avait une ambiance qui n'est pas du tout celle de novembre 2015. Hein. Moi, je m'en souviens très bien. J'étais sidéré par certains commentaires.
Ils l'ont un peu cherché, pouvait-on.
Oui, voilà. Voilà. Et, y compris de musulmans modérés aussi, d'ailleurs. Hein, où t'es quand même, oui, mais ils ont là quand même, ils cherchent la voie. Donc, dans ce contexte général, c'est pour ça que je parlais de contexte, toujours se replacer à l'époque, ça m'étonnerait pas que cette explication soit la bonne.
Et en l'occurrence, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces travers, ce mode de fonctionnement, il persiste ? Est-ce qu'il y a parfois des signalements qui ne se font pas justement à cause de cette volonté de ne pas être accusé de stigmatiser des individus de confession musulmane ? Est-ce que ce sont des comportements qui perdurent aujourd'hui ?
Je pense que personne ne sait exactement ce qu'est la radicalisation. À partir de quand on parle de radicalisation ? Il n'y a pas de définition. Les gens voient des comportements, ils savent pas trop ce que c'est finalement. Hein. Ils sont pas tous formés. Alors là, c'est pas le cas du tout à la préfecture de police, hein, c'est vrai. Mais de manière plus générale, ils savent pas trop à partir de quel moment on peut parler de quelqu'un qui est en train de se radicaliser. À quel moment c'est vraiment inquiétant ? C'est quand même pas. C'est pas si évident que ça. Là, ça n'a rien à voir avec cette histoire-là où manifestement les propos tenus sont inquiétants en eux-mêmes. Mais sinon, certains comportements, c'est pas évident.
Marc Trévidic, vous restez avec nous si vous voulez bien. On va évoquer le cas du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans quelques secondes avec vous. Et puis du procès Karachi que vous avez instruit pendant des années et qui débute aujourd'hui, en tout cas, pour son volet financier devant la justice. Il est 9h20. Mélanie Delaunay, pour le rappel de l'actualité tout d'abord.
Christophe Castaner souhaite que toute alerte fasse l'objet d'un signalement automatique. Nous devons resserrer le tamis, vient de dire le ministre de l'Intérieur sur France Inter. Il reconnaît des failles dans ce dossier. Le tueur de la préfecture de police de Paris s'était réjoui de l'attentat de Charlie Hebdo, mais aucune trace écrite dans son dossier administratif. Les manifestants se mobiliseront sur la durée s'il le faut. Albéric Dumont, le vice-président de la Manif pour tous, l'assure sur France Info au lendemain de la mobilisation à Paris contre la PMA ouverte à toutes les femmes, près de 75 000 personnes dans la rue hier. Un sujet qui divise cet après-midi à l'Assemblée, le Premier ministre Édouard Philippe ouvrira le débat sur la politique migratoire du gouvernement, un débat sans vote qui se poursuivra mercredi au Sénat. Les Verts reprennent des couleurs, Saint-Étienne remporte le derby contre Lyon 1-0 et passe devant au classement à l'issue de cette 9e journée de Ligue 1 de football, victoire des Stéphanois en toute fin de match hier soir.
France Info. Et tout est plus clair.
L'ancien juge d'instruction au pôle antiterroriste, Marc Trévidic, est avec nous jusqu'à 9h sur France Info, actuellement président de chambre à la cour d'appel de Versailles. Christophe Castaner est-il, pour vous, un ministre de l'Intérieur fragilisé ?
Alors moi, là, c'est histoire de politique. Enfin bon, j'ai jamais vu un ministre de l'Intérieur dont on ne demande pas la démission au bout de tous les deux mois. Je crois que ça n'a jamais existé.
Enfin, lui, il est peut-être un peu au-dessus de cette moyenne même.
Ah bon.
Sur les appels à la démission.
J'ai pas vos statistiques, vraiment, comme tout ministre de l'Intérieur, ces problèmes-là, c'est les plus complexes qui soient. Enfin, si je parle vraiment de ces problèmes de radicalisation, de détection, de lutte contre ce terrorisme diffus qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas plus complexe. Il n'y a pas plus difficile, c'est quelque chose qui est quasiment insaisissable, il n'y a pas de bonne solution, on ne trouve pas, il n'y a pas de solution miracle. Donc voilà, bon courage à ceux qui le critiquent, mais quand ils seront à sa place, et on verra comment ils font pour éviter que quelqu'un qui donne pas trop de signes extérieurs, tout d'un coup, prenne un couteau et fasse un massacre. C'est trop complexe pour faire de la politique politicienne.
Est-ce que le terrorisme n'est pas trop compliqué pour le laisser aux politiques ? Est-ce que c'est le rôle d'un ministre d'aller s'exprimer 3 heures après une attaque comme celle-ci ?
C'est tellement politique. Ils vous diront, c'est trop politique pour laisser ça au juge. Mmh. Donc on peut se renvoyer le... C'est une matière complètement politique. C'est côté régalien, j'assure la sécurité des concitoyens. On demandait au roi de France d'assurer la sécurité de ses citoyens. C'est ce que les gens voulaient.
Mais là, sur au les risque de routes, parler trop vite sans avoir la connaissance précise du dossier, on a vu que c'est ce qui s'est passé jeudi.
C'est les médias. Ça, c'est les médias qui veulent des réponses tout de suite. Il y a un événement comme ça. Il faut dire quelque chose.
C'est les médias ou ce sont les Français qui veulent des réponses?
Les Français,
veulent être
les médias. C'est-à-dire que ça va de pair, si vous voulez. Vous devez apporter une réponse tout de suite à quelque chose qui est très complexe, sans avoir d'éléments. Et j'allais dire presque, c'est horrible à dire, mais les corps sont chauds encore, qu'il faut donner une réponse à quand, comment, pourquoi et qu'est-ce qu'on va faire derrière. C'est l'immédiateté de la civilisation d'aujourd'hui. La télé, la radio, on a deux sortes de médias, comme vous savez, mais en tout cas, les gens, ils veulent des réponses, les hommes politiques de l'opposition tout de suite vont attaquer, ils vont pas non plus attendre de savoir de quoi ils parlent, il n'y a pas que ceux qui sont au pouvoir. Donc voilà, c'est une réflexion à avoir. Il faut toujours effectivement mettre de la réserve et je pense que d'une manière générale, ceux qui connaissent la matière savent qu'il faut quand même y aller mollo, même pour savoir si c'est terroriste. C'est pas toujours évident.
Donc il faut du temps que vous n'avez pas en fait, qu'on ne vous accorde pas.
Oui, qu'on n'accorde pas aux politiques, ça c'est clair, pour faire des réponses pertinentes en ayant toutes les informations. On voudrait qu'ils les aient déjà. Parfois ils les ont, très vite. Parfois non, parce que l'administration, les grosses boutiques, pour que ça remonte, quelque chose d'un peu structuré, ça peut mettre du temps.
L'épouse de Michaël Harpon a été remise en liberté hier après plusieurs jours de garde à vue. Est-ce qu'il est imaginable qu'il ait préparé cette attaque entièrement seul?
C'est pas très préparé quand même, parce que pour aller acheter des couteaux le jour même, pour se servir de gendarme, parce que je suppose qu'il avait des possibilités quand même à l'APP, à la préfecture de police, de trouver une arme de poing, par exemple. Voilà, qu'il soit un plus vulnérant qu'un couteau, donc c'est pas très organisé. Qu'est-ce qui a fait le basculement? Ça va être très intéressant. Est-ce que c'est ces derniers temps des contacts qu'il a eus, qui ont fini le boulot de radicalisation, j'allais dire? Parce que le passage à l'acte criminel, il se pose toujours, quel que soit, même pour un terroriste. Pourquoi pendant des années, il se passe rien, et puis tout d'un coup, voilà. Donc, mais d'un côté, il ne faut pas à tout prix dans les dossiers terroristes chercher des coupables, si vous voulez. C'est un peu le problème. C'est-à-dire, on n'a pas le bon parce qu'il est mort, et on voit dans pas mal d'affaires que il va falloir trouver un copain, il va falloir trouver quelqu'un de la famille pour faire un procès quand même. Donc, faut se méfier là aussi d'être très prudent.
Parmi les questions qui se posent sur Michaël Harpon, il y a le fait qu'il était aussi habilité secret défense en tant que fonctionnaire donc à la préfecture de police de Paris. Ça veut dire qu'il avait accès à quel type d'informations et d'après vous, qu'est-ce qu'il a pu potentiellement en faire?
Alors, s'il est habilité secret défense, moi je l'ai été aussi, ça veut dire que logiquement, on peut avoir accès à des informations classifiées, donc des informations qui sont secrètes, qui sont d'un niveau supérieur aux informations habituelles. Ça peut être par exemple, les adresses privées de fonctionnaires qui font la lutte antiterroriste. Clairement, leur numéro de téléphone, tous ces données sont classifiées, évidemment. C'est un exemple. Donc ça m'inquiète, quel style d'information, si on l'a habilité, c'est parce qu'il devait avoir, il devait voir de temps en temps des informations classifiées. Donc c'est inquiétant.
Cette habilitation, elle est reconduite tous les 5 ans. Vous pensez qu'il faudrait maintenant que les fonctionnaires qui sont habilités soient examinés tous les ans ou... remettre en cause ce délai?
Oui, alors est-ce que ça dépend du degré d'habilitation, où il travaille exactement? Oui, d'un autre côté, c'est toute une procédure.
5 ans, ça paraît long. Ça paraît un délai assez long. Effectivement, quelqu'un peut changer considérablement en 5 ans.
Non, c'est vrai, c'est sûr. Oui, on pourrait raccourcir le délai. Maintenant, c'est un peu long, c'est de la paperasserie. Moi, je me souviens que c'était fait de façon automatique. Il ne se passait rien de particulier.
Vous êtes habitué, vous étiez, vous
j'étais,
êtes toujours
j'étais.
Peut-être. Non, ça se passait
plus.
Comment, vous savez, quand on enquêtait sur vous? Vous étiez au courant, par exemple?
Ah oui, j'étais au début, pour l'habilitation, bien entendu. Mais enfin, bon, déjà, il y a... je suis quand même... j'avais un casier vierge, déjà toujours, d'ailleurs. Et puis voilà, ils ont les dossiers administratifs, ils vont voir le voisinage, des trucs comme ça. Enfin, c'est assez...
Y compris dans votre cas, on allait interroger vos voisins pour savoir si vous alliez à la mosquée, pour savoir si...
Oui, il y a eu une enquête, en ce qui me concerne.
Seulement mais
après,
la première fois.
Oui, après ça a été automatique. J'étais en poste, l'antiterrorisme, ça a été automatique.
Le danger, il est là, c'est-à-dire il est en cours de carrière, pas au début de carrière.
Voilà, non, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez dire, ça va pas être 5 ans, 3 ans, 2 ans, si c'est automatique... S'il n'y a pas d'enquête renouvelée derrière, le délai ne change pas grand-chose.
Marc Trévilly, quand vous poussez la porte du tribunal de Versailles, chaque matin en allant au travail, est-ce que vous êtes fouillé? Je vous pose la question, puisque le meurtrier de la préfecture est rentré avec 2 couteaux, qui étaient donc non pas en céramique, comme on l'a affirmé par erreur au début, mais bien en métal, qui aurait donc dû sonner sous les portiques.
Non. Non, mais non, je suis pas fouillé. Mais d'ailleurs, je passe pas sous le portique non plus.
Non, vous avez le droit de passer à côté.
Oui, oui, tout à fait.
Il y a beaucoup de monde comme vous qui passe à côté du portique.
Tous les magistrats. Oui, non, ça c'est clair. Oui, c'est un sujet de réflexion, effectivement. On sait bien que les policiers, c'est pareil. Ils vont pas passer sous le portique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passerait voilà, un magistrat va avoir un couteau et qu'est-ce qui va se passer derrière, quoi. C'est un peu embêtant, hein, quand même, comme réflexion derrière.
Parmi les réponses, on évoquait les réponses que les politiques tentent d'apporter à cette menace terroriste et notamment aux Français, évidemment, aux attentes des Français. Il y a la propension des responsables politiques, des gouvernements successifs, de légiférer à plusieurs reprises pour renforcer l'arsenal antiterroriste. En 2015, il y avait une loi renseignement sur laquelle vous aviez été très critique. Vous disiez que potentiellement, cette loi, elle menaçait le respect de nos libertés publiques. Avec le recul, est-ce que vous pensez toujours que c'est une mauvaise loi et qu'il faudra la changer?
Ah oui, tout à fait. Non, moi, ce que je critiquais, c'est l'idée qu'on puisse rentrer dans un appartement, placer des micros, sonoriser un appartement sans l'autorisation d'un juge. Je le maintiens. C'est pas le fait de le faire, c'est qu'il n'y ait aucun contrôle ou il est a posteriori. Et ça, je trouve ça dangereux de laisser un service de renseignement avec une liberté pareille dans les moyens d'espionner tout un chacun. Et j'ai critiqué aussi parce qu'il ne concernait pas que le terrorisme, il concernait l'intelligence économique et c'était ça l'objectif. De cette loi sous prétexte de terrorisme, lutte antiterroriste. Donc, il y avait sept points qui permettent ce genre d'intrusion. Voilà. Donc. Mais.
Aujourd'hui, il faut remettre le magistrat, il faut remettre la justice au cœur de ces.
Parce que
ce processus, elle a parfois tendance par les politiques à être écartée justement au bénéfice de l'autorité préfectorale, de l'État ou des policiers.
On est dans une société où on vous dit plus c'est grave, moins il faut de juge. C'est-à-dire, terrorisme, c'est très grave, donc on ne va pas demander l'autorisation d'un juge. C'est assez étonnant. Par exemple, pour que le fisc. Dans une enquête fiscale, simplement, pas pénale, viennent faire une visite domiciliaire chez vous, faut l'autorisation d'un juge du siège. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce qu'un juge, ça fait perdre du temps?
Mais un juge, ça contrôle, ça peut dire non. Et quand on donne des pouvoirs très importants, c'est là qu'il faut avoir un contrôle. Plus les pouvoirs sont importants, plus faut un contrôle. Ça veut pas dire qu'on va pas les utiliser, mais c'est pour éviter les abus, tout simplement. Bon, ben, c'est ça l'équilibre. C'est donner des pouvoirs, parce qu'il faut, en matière de lutte antiterroriste, donner des pouvoirs, mais il faut un contrôle.
L'affaire Karachi qui arrive devant la justice, on va en parler dans un instant avec vous, Marc Trévidic. D'abord, le rappel de l'actualité à 9h10 avec Mélanie Delaunay qui vient de nous rejoindre, c'est bien ça.
Et pour ce premier procès de l'affaire Karachi, 6 hommes vont devoir s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Paris sur ses soupçons de commission en marge de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 1995. Une vingtaine de personnes mises à l'écart de la police pour radicalisation depuis 2015, selon les informations de France Info. Alors que se pose la question des failles après l'attaque à la préfecture de police de Paris, il n'y a pas eu d'alerte au bon niveau, au bon moment, reconnaît le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur France Inter ce matin. Il veut désormais un signalement automatique. 10 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, les premières analyses sont rassurantes, selon la ministre de la Santé, sur les niveaux de dioxines relevés sur les légumes, les fruits, le lait ou encore les fourrages. Elle attend des prélèvements complémentaires. Et puis c'est le début d'une semaine, ponctuée de prix Nobel. Cela commence par la médecine en fin de matinée, avant la littérature jeudi. Et le très attendu prix Nobel de la paix, ce sera vendredi.
France Info. Et tout est plus clair.
Marc Trévidic, un tout premier procès s'ouvre donc aujourd'hui dans une affaire tentaculaire, c'est celle de l'attentat de Karachi. 14 personnes avaient trouvé la mort en 2002 au Pakistan, 14 personnes dont 11 ouvriers et salariés français. Nous sommes 17 ans après cet attentat, 25 ans après les soupçons, puisque cet attentat aurait été causé par des rétrocommissions qui n'auraient pas été versées et qui auraient servi notamment à financer la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 1995. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui?
Je pense que si vous posez la question aux familles des victimes, parce qu'il y a les familles des victimes décédées, mais il y a aussi ceux qui ont été gravement blessés, et qui portent les stigmates dans leur corps, qui à chaque fois qui se lèvent le matin, voilà. Bon, je vais pas vous faire un tableau de ce que ça peut être un attentat pareil et les blessures que ça procure. Ces gens-là ont envie de savoir. Ils savent qu'ils n'auront pas toute la vérité, mais des parcelles de vérité. Ils ont envie de savoir, notamment, puisqu'on parle de ce procès, s'il y a des gens qui se faisaient de l'argent pendant que leur père, leur mari risquaient leur peau. Voilà, très concrètement. Ça, je le sais parce que je les connais bien et je les ai vus pendant ces années à plusieurs reprises. C'est quelque chose d'important. Elles se sont jamais fait, les victimes de Karachi, beaucoup d'illusions sur la possibilité d'arriver à quelque chose dans le dossier terroriste lui-même. Mais voilà, tout ça autour, là. Alors, voilà, nous...
La réponse à cette question, Marc Trévidic, dans ce dossier que vous avez réveillé, puisque votre prédécesseur, Jean-Louis Bruguière, était parti sur une autre piste qui était celle d'Al-Qaïda, la réponse à cette question, est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait de l'argent en faisant prendre des risques à des Français à l'autre bout du monde, c'est...
Ah bah oui, pour moi oui, mais non, c'est pas à moi de dire qui et qui est coupable de ça, évidemment pas, j'ai une réserve là-dessus sans aucun problème. Je regrette simplement qu'on saucissonne, là, que les ministres ne sont pas jugés en même temps. Hein.
Les ministres, en l'occurrence Édouard Balladur et François Léotard, qui étaient ministres de la Défense, comparaîtront plus tard devant la Cour de justice de la République, qui est la seule habilité à juger des ministres pour des faits pendant leur fonction.
Pour que les Français comprennent bien, il y a un principe de séparation des pouvoirs qui veut qu'un juge puisse pas aller embêter un ministre quand il est en train de travailler. Ça serait dangereux. Je reconnais tout à fait d'accord pour qu'il y ait quelque chose de spécial à ce moment-là. Mais quand c'est des gens qui sont plus en poste depuis des années, en quoi va y avoir une intrusion du judiciaire dans le fonctionnement de l'exécutif? Parce qu'on va aller, on va juger nous, monsieur Balladur, monsieur Léotard, ils sont plus du tout en activité. Enfin, ça n'a aucun sens.
Ils devraient être jugés aujourd'hui, selon vous.
Mais bien sûr, c'est dans le même procès que leurs adjoints. Hein, parce que il peut y avoir des grandes contrariétés en plus dans les décisions, et puis il n'y a pas la même dynamique. Enfin, on va avoir des gens qui vont dire mais moi je suis sous fifre. Ah oui, ben on peut pas juger les autres. Hein, ils se renvoient la balle. Ça n'a aucun sens, ce système. François Hollande avait dit qu'il supprimerait la Cour de justice de la République, au moins sous cet aspect. Pour juger les anciens, voilà, ils l'ont pas fait, ils le font toujours pas, et on voit ce spectacle qui est navrant.
Ça fait partie des bâtons dans les roues qu'on vous a mis, justement, vous évoquez dans une interview au Monde à paraître cet après-midi, les bâtons dans les roues, les handicaps qu'on vous a infligés tout au long des années où vous avez mené l'instruction de l'affaire Karachi.
Ah bah là, c'est un handicap qui est constitutionnel, donc il est pas propre à cette affaire-là, il est récurrent, on l'a vu dans l'affaire Tapie, on a vu à plusieurs reprises.
Hein, c'est quoi les obstacles que vous avez subis depuis de votre instruction?
Ah ben, d'abord, il y a eu des moments où j'ai pas eu d'enquêteur. Hein. Donc, si vous voulez...
C'est-à-dire, vous étiez tout seul?
Oui. Alors, après, j'en ai eu des très bons, mais il y a eu une période quand j'ai commencé à travailler sur ce mobile où je n'ai pas eu d'enquêteur du tout. J'ai dû faire une commission enquêtoire internationale en Suisse tout seul.
C'est-à-dire, on vous disait quoi quand vous demandiez des enquêteurs?
Donc, je n'en aurais pas.
Donc, qui après... vous répondait ça?
Ah bah c'était l'un des patrons de la DST à l'époque, ou des CRI, je sais plus, faut voir exactement à quelle date.
On vous disait j'ai pas d'homme du tout, ou j'en ai pas pour faire ça?
Pas pour faire ça. Non mais des hommes, je vais vous dire, je me souviens d'une affaire, vous savez, il y a des personnalités politiques qui recevaient des cartouches dans des enveloppes. Alors là par contre, 40 fonctionnaires de police pour bosser sur ça, vous comprenez bien que c'est top niveau, c'est hyper important. Donc quand il y a besoin, quand le pouvoir a envie d'enquêter sur un dossier, vous avez tous les fonctionnaires de police qu'il vous faut. Quand ils n'ont pas envie, vous avez la portion congrue, hein, ça c'est clair.
Mais qui est le gêné, votre enquête? Vous gênez qui?
Non mais, je sais pas, gêné pas mal de monde qu'on aille fouiller dans les poubelles de la République sur l'aspect financier.
À l'époque, le président de la République, c'était Nicolas Sarkozy, pendant la plus grande partie de cette enquête que vous meniez. Nicolas Sarkozy qui était lui-même ministre du budget et dans la campagne d'Édouard Balladur en 1995.
Oui, mais ceci dit, il n'y a jamais, enfin dans le dossier, à part ce que vous venez de dire, il n'y a jamais eu d'éléments contre lui. Enfin voilà, donc bon.
Mais est-ce que ça peut contribuer à ces handicaps que vous évoquiez, c'est-à-dire au fait que l'État n'a peut-être pas manifester une grande célérité, disons.
Je pense que c'est plus profond que ça. Je pense que l'idée d'aller voir comment fonctionnent les contrats d'armement, rien que ça, hein, ce que ça implique en dessous de table, en corruption, etc. Rien que ça, qui que ce soit, qui soit au pouvoir de droite ou de gauche, a pas envie. Voilà, déjà. Donc je vais pas faire une fixette sur Nicolas Sarkozy sur ce dossier-là.
L'État se protège. L'État se referme, se replie sur lui-même.
L'État ne veut pas que soit rendu public des dysfonctionnements majeurs, des combats, des trucs qui sont des bassesses politiques, parce que ça, c'est l'histoire Chirac Balladur. Enfin, on avait atteint des sommets de lutte politicienne. Voilà. Ce qui changeait Karachi par rapport aux frégates de Taïwan, par exemple, c'est l'attentat. C'est ça qui a donné de l'ampleur à ce problème-là. Hein, que c'est autre chose que simplement des histoires de sous et de corruption. C'est un problème de... Il y a des morts. Donc là, c'est plus votre problème uniquement. Hein.
Et quand vous rappelez qu'effectivement cette affaire, elle remonte à 95, à l'affrontement Chirac-Balladur, la campagne présidentielle, ça veut dire que ça, c'est du passé, ces pratiques de rétrocommission, c'est un passé révolu à vos yeux?
je mettrai pas ma main à couper, parce que j'en ai que deux et j'aime bien m'en servir. Donc voilà, il y a eu des efforts. Hein. On a eu une loi d'abord qui a pénalisé le fait de corrompre un fonctionnaire étranger. Car figurez-vous qu'avant on avait le droit légalement. C'est quand même phénoménal.
La justice s'arrêtait à nos frontières.
Ben ouais, c'est quand même assez extraordinaire. Donc il y a eu des lois, etc. Maintenant, qu'il se passe pas de corruption dans les contrats d'armement, je serais bien surpris qu'on soit une république aussi vertueuse que ça.
Merci beaucoup Marc Trévidic
d'être venu
ce matin au micro de France Info. Dernière déclaration de Christophe Castaner qui était interrogé ce matin chez nos confrères de France Inter au sujet de la tuerie de la préfecture de police de Paris. C'est un dysfonctionnement d'État, dit le ministre, mais il n'y a pas de scandale d'État. On y revient dans deux minutes dans le journal de 9h. Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.